Bien, nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble dans l'Évangile selon Jean et le chapitre 8, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Et je voudrais vous parler d'une parole de libération. Une parole de libération. Je sais que souvent, le titre qui est donné à cette portion de l'Écriture, c'est souvent la femme adultère. Mais je dois dire que en question ici, n'est pas la femme adultère. Ce n'est pas la raison pour laquelle ces scribes et ces pharisiens l'ont emmené à Jésus. Bien vrai, c'était sous guise de l'accuser. Mais à vrai dire, ils sont venus accuser le Seigneur Jésus-Christ. Qui il est et pourquoi il est venu. Et puisqu'ils avaient une division à son sujet, comme nous allons voir ici dans le verset 6 de Jean 8, il disait cela pour l'éprouver. C'était ce qui était dans leur cœur dès le début. Donc c'est pourquoi j'ai intitulé cette étude une parole de libération. C'est Christ qui est la parole. Et peu importe ce que les gens pensent de lui, c'est lui qui est le juge. C'est lui qui décide entre la vie et la mort. Et c'est sur ce point que ces pharisiens contestèrent avec lui. Ils ne voulaient pas qu'il règne. Ils ne voulaient pas que Christ soit Christ. Ils n'acceptaient pas qu'il soit le Fils de Dieu venu en chair. Donc leur contestation était contre lui. Et cette pauvre femme, ils ont utilisé comme raison de pouvoir l'éprouver. Et nous allons voir comment le Seigneur Jésus a traité cela. Donc, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 3, nous lisons, « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, voilà encore le point, le sujet n'était pas cette femme nécessairement, mais c'était le Seigneur Jésus. Et ils ont dit maître, ce qui était un titre qu'ils utilisaient entre eux, donc ce n'est pas qu'ils étaient en train de lui donner du respect ici, mais le traitant comme leur égal, ils disent, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Voilà un point que je constate concernant ceux, même de nos jours, qui ne voient pas leur propre péché, mais qui sont prêts immédiatement à condamner d'autres. C'est pourquoi ils prêchent la loi. Ce n'est pas pour que leur bouche soit fermée, mais ils aiment utiliser cette loi pour condamner d'autres. Ça, c'est la religion de la propre justice, une religion qui préfère mettre la lumière sur d'autres et les juger, les condamner, plutôt de se voir condamner eux-mêmes. Voilà le problème. Ces hommes étaient aveugles. Ils ne se rendaient pas compte que cette même loi qu'ils prenaient maintenant pour éprouver le Seigneur Jésus, pour voir comment il allait répondre, en quelque sorte jouer avec la loi, cette même loi les condamnait, mais leur bouche n'était pas fermée parce qu'ils n'étaient pas encore sous la conviction de l'esprit, c'est-à-dire laisser à eux-mêmes. Ils préféraient condamner cette femme. Donc, mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et puis, verset 5, ce sont des hommes qui connaissent bien la loi et qui sont prêts à citer la loi à l'égard des autres. Nous avons de tels gens autour de nous. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Il y a beaucoup de questions de la loi que les gens aiment susciter quand il s'agit d'autres personnes. Une grande question aujourd'hui, c'est au sujet du divorce. Que dit Moïse au sujet du divorce? Ici, c'était concernant l'adultère. Et toi donc, ils disent, que dis-tu? Donc voilà le vrai mobile pour lequel ils se sont approchés du Seigneur Jésus. Et verset 6 nous le dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. C'est pourquoi je disais dans l'introduction que ce n'était pas cette femme qui était l'objet de leur accusation, mais ils ont amené la femme pour accuser le Seigneur Jésus-Christ d'entendre ce qu'il allait dire. Ils savaient par d'autres exemples déjà que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner les pécheurs qu'il est venu sauver, mais il est venu pour les sauver. Il est venu pour démontrer la grâce de Dieu envers des pécheurs que le Père lui a donné avant la fondation du monde. Donc il savait que le message de Christ était le message de la grâce, de libération, comme le prophète Ésaïe a annoncé. Il est venu pour libérer ceux qui étaient en captivité, tels que cette femme. Mais puisque les gens l'ont rejeté, c'est comme aujourd'hui. Lorsque nous nous levons pour prêcher Christ dans toute sa souveraineté et la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est parce que les gens n'aiment pas un tel message. Les gens veulent toujours mettre des conditions sur les pécheurs et ajouter leur point de vue. Ils ne veulent pas que Christ ait toute la gloire. C'est pourquoi les gens aujourd'hui même suscitent des questions au sujet de la loi. Et Paul a même écrit à Timothée de ne pas se laisser entrer dans de telles discussions au sujet de la loi ou bien des généalogies, autre chose. Tout ça sont des distractions au message de Christ et Christ crucifié, d'un sauveur qui est venu sauver les pécheurs que le Père lui a donné et les sauver, pas en mettant la loi de côté. C'est pour ça les pharisiens l'accusaient, parce qu'ils imaginaient pour sauver les pécheurs, Christ était simplement en train de mettre la loi de côté. Mais Christ lui-même a dit dans son sermon sur la montagne, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et voilà le point dans cette histoire au sujet de la femme que ces hommes pharisiens et scribes ne pouvaient pas voir. Que Christ n'était pas tout simplement en train de pardonner des pécheurs, comme nous voyons des gens aujourd'hui faisant le signe de la croix et disant aux hommes, vos péchés vous sont pardonnés, comme si cela résidait avec les hommes. Le pouvoir même de juger cette femme ou de la libérer ne restait pas avec ces hommes religieux, mais c'était entre les mains de celui même qu'ils accusaient. C'est pourquoi Je disais au début que cette histoire n'est pas au sujet de cette femme adultère, mais ça concerne plutôt le sauveur, son sauveur. Les autres, Christ par son esprit a refoulé, ils sont partis, comme nous allons lire tout à l'heure. Mais pour cette femme, voilà la grâce de Dieu, elle n'était pas refoulée malgré ses péchés. Elle est restée dans le silence durant le long de cette réunion ou bien ce rassemblement. Elle est restée silencieuse, certainement sachant qu'elle était exactement ce dont les gens l'accusaient, adultère. Il y a d'autres qui, dans leurs commentaires, veulent prétendre que peut-être que cette femme n'était pas réellement adultère, mais on l'a prise simplement pour l'accuser. Mais les Écritures sont claires. Verset 3, ils ont emmené une femme surprise en adultère. Et le verset 4, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et Christ, sachant toute chose, n'a pas côtoyé cette accusation. Mais étant le Seigneur, étant le Sauveur, étant le Juge et discernant le mobile dans le cœur des hommes, d'abord, Christ a adressé ses accusateurs, sachant que, en réalité, ce n'était pas cette femme qu'il visait, mais c'était lui-même. Mais cette histoire ici concerne Christ, concerne le Seigneur Jésus en tant que juge et en tant que sauveur. Lui-même, il a rendu gloire à son Père dans sa prière sacerdotale dans le jardin, où il remerciait le Seigneur que le Père lui a donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que le Père lui avait donné. C'est comme dans Luc, chapitre 15, souvent on parle de la brebis perdue, ou bien du fils égaré, mais là aussi, ce n'est pas là l'accent. L'accent, c'est sur le sauveur, c'est sur le berger qui est allé chercher sa brebis perdue. C'est sur la femme qui a cherché la pièce de monnaie. Tout cela représente le Seigneur Jésus, ou le Fils que l'Esprit de Dieu a ramené à son Père. Ici, l'accent doit être sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Sauveur, et qui est la parole de libération. Ce n'est pas seulement qu'il a prononcé une parole de libération au sujet de cette femme, mais il est lui-même cette parole de libération. C'est en lui que les pires des pécheurs sont libérés. Mais non pas simplement en mettant de côté la loi, ce n'est pas ce que Christ fait ici, mais plutôt lui-même devait être l'accomplissement de cette même loi qu'il a condamnée. C'est lui qui est venu accomplir cette loi dans toute sa sainteté. Comme nous allons voir ici, lorsque Christ leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, qui dans cette assemblée était le seul qui n'a jamais péché, c'était le Seigneur Jésus lui-même. Donc c'est lui-même, lui seul qui retenait le pouvoir de la condamner s'il voulait. Mais si vous demandez pourquoi il n'a pas condamné, parce qu'elle était de ce nombre que le Père lui a donné, c'est quoi l'accent est mis sur elle ici. Pas comme la femme adultère, mais comme une pécheresse que Christ lui-même est venu sauver, non seulement par son obéissance parfaite à la loi à son égard, mais aussi par sa mort, la raison pour laquelle il pouvait dire à cette femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Verset 10, et personne n'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne non plus. Comment il a pu dire cela? C'est parce que il devait prendre sa place dans la mort par la foi. Et je trouve intéressant que ce jour de la mort de Christ, il y avait des femmes qui se tenaient au loin et qui regardaient tout ce qui se passait dans la mort de Christ. Et je ne peux qu'imaginer que peut-être cette même femme adultère qui était à Jérusalem observer le Seigneur en train de mourir pour ses péchés, même si ce n'est pas physiquement, spirituellement. Elle a dû savoir que la raison pour laquelle Christ ne la condamnait pas, c'est parce qu'il a pris sa place dans la mort. C'est comme nous. Nous n'étions pas là le jour qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus, mais par l'Esprit de Dieu, c'était révélé dans notre cœur, d'abord que nous étions dans cet état de péché, mais que c'est pour de tels pécheurs que Christ est venu dans le monde donner sa vie. Quelle parole de libération nous avons ici. Donc, dans le verset 6, notons que le vrai but de ces hommes en amenant cette femme devant le Seigneur, ce n'était pas pour l'accuser, mais comme c'est écrit ici dans le verset 6, afin de pouvoir accuser le Seigneur Jésus. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Je sais qu'il y a beaucoup qui veulent savoir, mais qu'est-ce qu'il a écrit au juste? Mais si nous savons l'exemple du Seigneur Jésus, et nous avons beaucoup d'exemples à travers les Écritures, que Christ ne disait rien, ou bien même on peut écrire ici, ou dire ici, et n'écrivait rien, sauf ce que c'était, ça lui était donné par son Père et par l'Esprit. Lui qui était la parole, il devait, en écrivant avec son doigt, être en train d'écrire sa parole. Nous ne pouvons pas savoir exactement le contenu de cette parole. Certains supposent qu'il était en train d'écrire d'autres parties de la loi qui condamnaient ces hommes qui ont amené cette femme à adultère. Mais nous devons simplement savoir que le but de cela, le fait que Christ écrivait dans le sable sur la terre, c'était de faire taire ses accusateurs, même à son sujet. Je suis sûr que ce qu'il écrivait, c'était la parole, et que ça lui donnait la gloire, et ça condamnait ces hommes qui ont amené cette femme. Mais dans le verset 7, ça nous montre l'endurcissement du cœur, que peu importe ce que Christ écrivait, c'est écrit, verset 7, il continuait à l'interroger. Et c'est là qu'il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier. la pierre contre elle. Et puis, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Encore, tout ce qu'il écrivait ne pouvait que les condamner. Et voilà une bonne manière aujourd'hui d'adresser ceux qui veulent accuser d'autres, qui ont leurs yeux sur d'autres, qui veulent citer la loi contre les autres. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'assemblées qui sont légalistes de cette manière. Ils ne veulent pas que la lumière soit sur eux, mais ils aiment toujours mettre la lumière sur d'autres. Donc comment est-ce que nous devons adresser de tels gens avec la parole? C'est ce que Christ a fait dans Matthieu chapitre 5, lorsqu'il a adressé ces gens qui se croyaient purs par rapport à la loi, tout en accusant d'autres. Dans le verset 19, par exemple, de Matthieu chapitre 5, il dit, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. » C'est-à-dire, les gens aiment catégoriser les péchés par rapport à la loi. Ils disent, mais ce péché-ci, c'est pire que l'autre, non? La loi condamne tout péché. Donc, si vous allez accuser une femme d'adultère, il faut savoir ce que c'est l'adultère. Christ lui-même adresse cela à ses hommes dans ce sermon sur la montagne, surtout dans le verset 28. Verset 27, il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et c'est ce que dit la loi. Mais moi, verset 28, voilà Christ qui est la parole et qui est le juge. Il dit, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc vous voyez comment cette parole revient sur ceux qui veulent prendre cette parole pour accuser d'autres, pourtant ils sont eux-mêmes déjà accusés. C'est pourquoi je disais ce que le Seigneur écrivait sur la terre devait être la parole qui condamnait même de tels gens. Et ça, nous savons, selon Psaume 130, que si Dieu devait marquer l'iniquité, qui pouvait se tenir devant lui? Personne. Personne. Et la loi n'a pas été donnée afin de convaincre d'autres de leur péché. Comme c'est écrit dans l'épître de Paul aux Romains, et le chapitre 3, la loi a été donné, verset 19, il dit, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Si vous me demandez comment nous pouvons connaître, savoir quelqu'un qui a vraiment connu la loi de Dieu, je dirais que c'est quelqu'un dont la bouche est fermée par rapport à cette loi. Et c'est un homme ou une femme qui se voit entièrement condamnable par rapport à cette loi. Et dans le besoin d'un libérateur, comme le Seigneur Jésus-Christ, un représentant, un sauveur. Alors, revenons dans notre texte, dans Jean 8. Quand Christ a dit que celui de vous qui est sans péché quelconque jette le premier la pierre contre elle, il faut savoir que Christ, tout en adressant à ses hommes, en tant qu'homme, néanmoins le Dieu homme, son esprit est à l'œuvre. C'est ce que nous ne voyons pas ici. Son esprit est à l'œuvre tout en condamnant ces hommes dans leur conscience, mais aussi son esprit est à l'œuvre tout en retenant cette femme adultère auprès de Christ pour qu'elle-même ne s'en aille pas. Même si ses accusateurs sont partis, elle est restée là en entendant la sentence de Jésus-Christ à son sujet. Telle était l'œuvre de l'Esprit déjà dans son cœur. C'est l'Esprit qui nous attire à Christ, tout en sachant notre culpabilité. Mais dans le verset 9, quand ils entendirent cela, où Christ a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Encore, leur intention n'était pas d'accuser cette femme, parce qu'eux-mêmes, ils étaient connaissants de leur propre péché, quoiqu'ils cherchaient à couvrir cela avec leur extérieur, avec des cérémonies et autres choses. Mais lorsque Christ agit dans le cœur, c'est soit pour convaincre un pécheur ou l'attirer à lui, ou bien même, comme c'est écrit ici, leur propre conscience les accusait. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, qui a fait cela si ce n'est Christ lui-même devant eux, agissant par son esprit. C'est écrit, ils se retirèrent un en un. J'imagine chacun en train de regarder l'autre et puis en train de se retirer doucement, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça c'est une phrase qui bénit mon cœur. Une déclaration. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Lorsque nous lisons la manière que Christ a attiré des pécheurs envers lui, c'était un en un. Il faisait disperser la foule pour qu'il reste seul avec ce pécheur-là pour qui il est venu. Et je sais que c'est comme ça qu'il se manifeste même aujourd'hui envers nous qui sommes des pécheurs sauvés par sa grâce. Ce n'était pas dans les masses parmi les foules qu'il nous a appelés, mais qu'il nous a tirés à lui-même pour nous rencontrer, lui et nous seuls. Il nous met de côté. Nous sommes isolés des hommes et attachés à lui. Ça, c'est une grâce où c'est écrit « Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. » Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, jusqu'à présent, il est en train de s'adresser à ses accusateurs. Et je dois dire, nous voyons ici un modèle de la manière que Christ traite avec les pécheurs qu'il est venu sauver. D'abord, il s'adresse à tout ce qui doit nous accuser, c'est-à-dire cette loi. Et c'est intéressant, il sait que c'était la loi qui amenait cette femme à Christ. Et c'est pour ça que Dieu a donné cette loi. Si nous revenons encore dans Romains chapitre 3 et nous lisons la suite, nous savons que la loi a ce but, que toute bouche soit fermée devant Dieu par rapport à la loi, tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et verset 20 dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Ça, c'est la première des choses dont l'Esprit nous convainc quand il commence son œuvre de grâce dans notre cœur. que nous ne serons jamais justifiés devant lui par les œuvres de la loi. Et c'est écrit, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je dois dire que c'est pourquoi, finalement, ces hommes qui ont emmené la femme se sont retirés un à un, accusés dans leur conscience par rapport à cette loi. Cette même loi pour laquelle ils voulaient condamner cette femme. Mais en réalité, ils sont venus pour éprouver le Seigneur Jésus pour savoir comment il allait répondre. Et maintenant, ayant entendu la réponse de celui qui est l'auteur de la loi et la parole lui-même, il n'avait plus aucun mot à dire, parce qu'il savait dans leur conscience, sans vouloir l'admettre, que cette même loi dont qu'il prenait pour accuser d'autres, les condamnait. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Mais je dois dire, cela ne veut pas dire qu'ils se sont repentis. Il y a une différence. Il y a beaucoup qui savent dans leur esprit, selon leur conscience, qu'ils sont des pécheurs. Et qui vont l'admettre, peut-être en privé, mais simplement la messe, ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est comme cette femme, c'est de rester là et entendre ce que le Seigneur lui-même dira à notre sujet. Notre cas, c'est entre ses mains. Et c'est pourquoi dans Romains chapitre 3, le verset 21, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. » Cela veut dire, sans notre obéissance personnelle à cette loi. Même ici, lorsque le Seigneur Jésus dit à cette femme à la fin, verset 11, je ne te condamne pas non plus, il n'a pas mis des conditions sur elle pour qu'elle soit libérée. Cette libération, même de l'accusation, ou bien la culpabilité de la loi, demeurait entre les mains du seul juge, de celui seul qui est capable de juger. Et c'est le Seigneur Jésus. C'est lui seul qui est sans péché. Il a prouvé par sa vie. Et non seulement obéi au précepte de la loi, mais il a prouvé par sa mort. Il a donné sa vie pour qu'il n'y ait aucune raison de condamner ceux pour qui il a vécu sa vie et pour qui il est mort. C'est ça le sens ici dans Romains 3, 21, mais maintenant sans la loi, sans une obéissance personnelle à la loi et manifester la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. C'est intéressant qu'ils ont cité Moïse afin d'accuser cette femme. Pourtant, c'est écrit ici, même dans Moïse, bien vrai, il y avait cette loi qui condamne tout pécheur. Mais dans cette loi est manifestée, c'est écrit, la justice de Dieu. Comment? Vous pouvez aller dans l'Ancien Testament et à côté de la loi qui est bien exposée là et bien évident, nous lisons ce que dit la loi. Pourtant, il y avait toujours les sacrifices. Il y avait le pardon de Dieu à travers les sacrifices. Et ces sacrifices représentaient l'œuvre de Christ qu'il devait accomplir. Voilà ce que ces scribes et ces pharisiens ignoraient. Qu'ils étaient devant celui que Dieu le Père a envoyé dans ce monde pour accomplir cette loi. Ils ont cité Moïse, mais qu'est-ce que Moïse lui-même a dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, il a dit que Dieu suscitera parmi vous un autre prophète comme moi. Il a dit, écoutez-le. Cela a été dit par Moïse. Donc c'est pourquoi Christ dit, mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Christ est le sujet de tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Ça concerne Christ. Il dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous! C'est pourquoi lorsque Christ a été sur la terre, ce qu'il écrivait, c'était la parole, certainement, qui condamnait même ceux qui ont amené cette femme comme pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais voilà la bonne nouvelle, voilà la parole de libération, Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ a pu dire à cette femme, où sont ceux qui t'accusent? Et elle a dit, personne, oui, il a posé la question, personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. C'est la seule fois qu'elle parle ici. Parce qu'elle est devant celui qui, par l'Esprit de Dieu, elle reconnaissait qu'il avait le droit, soit de la sauver ou bien de la condamner. Alors, il lui dit, je ne te condamne pas non plus. Comment elle a pu dire cela? C'est parce que tout jugement, comme il a dit plus tard, le Père ne juge personne, il a mis tout jugement entre ses mains. Et à l'égard de cette femme, il a jugé ainsi à son égard parce qu'elle était parmi ce nombre de pécheurs que Christ a reçu de son Père depuis l'éternité et pour qui il est venu effectivement pour être sa justice. Et dans sa grâce, mourir pour elle. Et ainsi, il n'y a maintenant donc, comme c'est écrit dans Romains chapitre 8, verset 1, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les autres se sont retirés, un en un. Je dois dire que c'est l'Esprit de Dieu qui les faisait partir. Et voilà ce qui est notre joie, même en tant que pécheurs aujourd'hui, parce que nous savons que nous continuons à être des pécheurs. Et comme Jean lui-même a écrit dans 1 Jean chapitre 2, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Je ne connais aucun enfant de Dieu qui va prendre le message de la grâce de Dieu pour dire, bon, allons pécher davantage. Ce n'est pas la grâce de Dieu qui nous encourage à pécher. Et Jean dit cela, afin que vous ne péchiez point. Mais voilà la bonne nouvelle, il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voilà, dans cette situation, l'accent est sur celui qui est l'avocat des pécheurs, Jésus-Christ le juste. C'est pourquoi Christ a posé cette question à ses pharisiens, parce qu'on l'accusait d'être un blasphémateur. Pourtant, il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Le seul ici qui avait le droit de jeter la pierre, c'était Jésus-Christ le juste, parce qu'il était effectivement sans péché. Pourtant, il n'a pas accusé cette femme. Pourquoi? Parce qu'il est venu effectivement pour la libérer, pour être son sauveur, pour être, comme c'est écrit ici, un avocat auprès du Père. Mais comment? Verset 2 dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Une fois encore, il n'a pas simplement mis de côté le péché qui condamnait cette femme. Non, mais il est venu pour être cette victime expiatoire à son égard. Et quand c'est écrit ici dans 1 Jean 2, verset 2, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est en train de parler dans le sens ethnique. Quand il dit non seulement pour les nôtres, il parle en tant que juif, mais pour ceux qui sont enfants de Dieu du monde entier. Vous regardez ça dans le contexte. Ce n'est pas qu'il est la victime expiatoire pour tous les êtres du monde entier. Si tel était le cas, donc tous les êtres du monde entier devraient être libérés. Et les autres se sont partis, étant accusés dans leur conscience, mais cette femme, il l'a retenue. Alors cela nous amène dans la dernière partie de notre texte, Jean 8, verset 11, lorsque Christ a dit, « Va et ne pêche plus. » Dans quel sens est-ce qu'il disait à cette femme de s'en aller et de ne plus pécher? Si c'était de ne plus jamais pécher, je dois dire que ça c'est quelque chose d'impossible pour qui que ce soit. Lorsque nous dormons, nous sommes en train de pécher. Nous restons des pécheurs. Lorsque nous nous levons, nos premières pensées ne sont pas vers Dieu souvent, mais c'est sur nous-mêmes. Et en cela, nous péchons. Pour moi, je comprends les dires du Christ ici dans Jean 8 et le verset 11. Va et ne pêche plus dans le sens de s'en aller, mais de ne plus se mêler avec ces hommes qui ne pouvaient que l'accuser. Va et ne pêche plus en ayant les regards sur les hommes pécheurs, mais avoir des yeux sur Christ seul. Vous savez que le plus grand adultère, même si quelqu'un ne commet pas l'adultère physiquement, ouvertement, mais nous savons que l'homme est adultère de nature, dans son cœur. C'est pourquoi Christ a dit, même si un homme regarde à une femme pour convoiter cette femme, il a déjà commis l'adultère avec elle. Ce n'est pas seulement nos paroles ou bien nos actes qui nous condamnent, mais nos pensées, nos cœurs, nous sommes pleinement pécheurs à cause de notre état de péché dans lequel nous sommes nés dans ce monde. Mais le plus grand adultère, c'est de ne pas avoir le regard sur Christ et Christ seul, mais de regarder soit sur nous-mêmes et nos efforts pour nous délivrer, ou bien les dires des hommes, suivre les lois des hommes. Il y en a plein. Quand vous allez écouter un peu ce qui est prêché dans les assemblées, ce sont des règlements sur des règlements. Et je crois que Christ est en train de dire, va et ne pêche plus. Il ne faut jamais se mêler encore avec ces hommes qui viennent de t'amener vers moi. Parce que ce sont eux-mêmes des pécheurs, et en se confiant en eux, vous allez vous-même tomber dans le piège, et la fin de cela sera pire que le début. C'est pourquoi nous nous méfions des hommes, nous nous méfions de leur ordonnance, nous nous méfions de tout ce que les hommes veulent enseigner pour nous attraper et nous garder sous leur autorité. Non. En Christ, nous sommes libres, donc nous devons nous attacher à lui et à lui seul, parce que c'est lui qui est la parole de libération. Ce n'est pas seulement qu'il donne sa parole de libération, mais il est lui-même cette parole de libération. C'est pourquoi le Seigneur Jésus n'avait que cette parole de grâce à adresser à cette femme, parce qu'il est venu comme son avocat. Et je remercie le Seigneur que tel est le cas de tous ceux qui lui appartiennent. Heureusement, c'est lui qui est notre défense, c'est lui qui est notre libérateur, et tout cela par grâce. Alors que le Seigneur bénisse cette parole au cœur de ceux qui lui appartiennent. Amen.